j'essaie de dire une petite phrase en anglais approximatif. Sachez, voilà, c'est pour que nos amis puissent éventuellement être aidés pour suivre. Comme vous savez peut-être, il y a quelques jours, un peu plus qu'une semaine, on est parti en bivouac avec Lucas pour 2 jours. On a passé donc un petit moment ensemble. C'était un peu, voilà, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire, n'est-ce pas, Lucas? Et puis en plus, en prévision du baptême, c'était un bon temps qu'on voulait passer en tant que père et fils. On a marché quand même pas mal, hein, 27 kilomètres. On a, avec pas mal de dénivelé positif cumulé, on n'était pas loin des 900 mètres. Et puis, du coup, l'équivalent aussi en descente. Ce qui fait qu'on est arrivé pas très glorieusement à la maison, mais on y est arrivé, en traînant un peu les pieds pour les derniers mètres. Et pour notre randonnée, on avait emporté dans nos bagages, malgré le poids, le voyage du petit pèlerin de John Bunyan, si vous connaissez. Et on a lu quelques chapitres, peut-être deux tiers, un peu moins, ouais, de ce livre. Et c'était aussi pour nous aider à réfléchir en même temps qu'on était en train de grimper sur la montagne, de cheminer sur le sentier. Si vous ne connaissez pas cette œuvre littéraire d'un chrétien du, je crois, c'est 17e ou 18e siècle, compare un peu la vie chrétienne à une marche, voilà, avec beaucoup de difficultés. Il y avait la montagne de la difficulté, par exemple, dans son histoire. Il y a le marécage du découragement. Et donc il y a tout un tas de choses, et c'est censé être un reflet un peu de ce qu'on peut vivre dans notre vie chrétienne. Et en réfléchissant encore à ça, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. On a mis 3h30 pour monter les côtes les plus difficiles le premier jour. Certaines étaient à plus de 15% pendant quelques kilomètres, donc c'était quand même chaud, hein. Par contre, le lendemain, on a redescendu en 45 minutes, qu'on avait mis tant de temps et d'efforts à monter, aussi dans des pentes qui étaient bien pentues. Et en réfléchissant encore avec ce texte-là en tête aussi, là, ça m'a sauté de nouveau aux yeux combien c'est toujours plus facile de détruire que de construire dans ce monde. On vit dans un monde déchu, brisé, marqué par le péché. Et du coup, la route pour la maturité, elle se construit lentement. Lentement, mais sûrement, par la grâce de Dieu. Au travers de circonstances parfois difficiles. Mais il est très facile de détruire ce que le Seigneur nous enseigne en quelques instants. C'était vrai pour le peuple d'Israël autrefois. Et ne croyons qu'on est supérieur à ce peuple-là, ce sera vrai pour nous aussi. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Comment réagir devant notre cœur si prompt à se détourner? Où est-ce qu'on va trouver de l'espoir? Où va se situer notre sécurité si nous sommes si rapides à échanger la gloire de Dieu pour des mensonges? Si nous sommes si rapides à mépriser sa bonté et ses dons? Peut-être une autre question qu'on a en tête, si nous sommes si rapides à ne plus aimer Dieu, est-ce qu'il en est de la même manière pour lui? Vis-à-vis de nous. I just told a little story. We went for a walk for 2 days with my son, and we had a hard time climbing up the mountain. And it was very quick to get down the mountain, 45 minutes. And the previous day, it took us nearly 4 hours to get there. And just a reminder that it's easy to deconstruct things and very hard to build up. And we see today a story in the people of Israel when they quickly went away from what God had been doing to build a relationship between them and Him. And the question is, where can we find hope because we realize we are not superior to them? Where is our security when we are so quick to go astray from God? And maybe another question is, if we are so quick not to love God, will it be the same for Him? Will it be quick not to love us anymore? These are the questions I'm trying to answer with this passage. Okay, jusqu'à ce point, dans le livre de l'Exode, on a vu que la relation entre Dieu et son peuple n'a fait que se renforcer. On a vu Dieu à l'œuvre pour faire devenir nombreux ce peuple qui était qu'une poignée. C'était tellement compliqué. On a parlé de la difficulté d'avoir des enfants, pour Abraham d'avoir un descendant, alors que toutes les promesses de Dieu dépendaient de cette descendance. Et puis pour Isaac encore, c'est aussi compliqué. Et puis à la fin de Genèse, ils sont que 12. 12 et leur famille, c'est pas super nombreux, 70. Et alors on avait vu au début d'Exode comment Dieu fait pulluler ce peuple, dans un bon sens, il devient très nombreux, c'était sa promesse. Et même si le pharaon essaye d'empêcher ça, il peut rien faire contre les promesses et les bénédictions de Dieu. Donc on a vu Dieu à l'œuvre pour multiplier le peuple, pour le libérer de l'Égypte, pour l'emmener vers un rendez-vous avec lui au mont Sinaï. À part les murmures, le peuple qui a ronchonné dans le désert pour de la viande et pour de l'eau jusqu'ici, ça n'a pas été trop mal, et en tout cas ça n'a pas arrêté Dieu de bénir, de pourvoir aux besoins du peuple et de le conduire. La relation ne semble pas avoir été trop endommagée. Et en arrivant au chapitre 19, au pied du Sinaï, et de nouveau au chapitre 24, lors de la ratification de l'Alliance, on avait vu le peuple enthousiaste répondre d'un seul cœur, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. » C'est génial. Donc Dieu veut une relation avec son peuple, le peuple est d'accord de répondre aussi. Et après avoir défini et établi les termes du contrat de l'Alliance qui les unirait, Dieu a montré à Moïse les plans de sa demeure au milieu du peuple. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu la dernière fois avec le tabernacle? Et donc, notre attente, maintenant, c'est de voir le tabernacle construit et Dieu, dans sa gloire, venir remplir cette demeure et habiter au milieu de son peuple. L'avenir semble tout rose, tout bien tracé, jusqu'à notre passage, jusqu'à Exode 32, qui vient comme une douche froide, alors que la rébellion du peuple et son cœur porté à râler, à être mécontent de Dieu, refont surface au détriment de ses bonnes intentions d'obéissance. Et je vous invite à lire ça dans Exode, chapitre 32, les versets 1 jusqu'à 6. And just a quick word again in English. We have seen God building up this relationship with his people, making everything he could so as to bless these people. And so far we've seen the people reacting positively, saying, yes, everything that God says, we will do it. And so we seems it's going to a happy end. God is going to build his tent in the middle of the people and dwell in it. He just gave the plans until we arrive at Exodus chapter 32. And we'll read from verse 1 to 6. Exode 32, versets 1 à 6. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. » Aaron leur dit, « Enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous les gens du peuple enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci prit l'or de leurs mains, le façonna au burin et fit un torillon de métal fondu. Puis ils dirent, « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte !» Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le torillon et s'écria, « Demain, il y aura une fête pour le Seigneur !» Il utilise ici le mot Yahweh, le nom personnel de Dieu. Verset 6, le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Nous ressemblons au peuple d'Israël, et Dieu ne change pas, n'a pas changé depuis cette époque. Donc c'est important pour nous de comprendre ce qui se passe ici, pour mieux nous connaître et pour mieux connaître Dieu. Et une chose est sûre pour nous, le danger est grand de rapidement nous détourner de Dieu. Le danger est grand de rapidement nous détourner de Dieu. There's a big danger for us to quickly move away from God. Nous sommes 40 jours après chapitre 24, verset 18, quand Moïse a ratifié l'alliance au nom du peuple, vous vous rappelez, avec le sang des sacrifices. Moïse est monté sur les Sinaï dans la nuée épaisse, appelé par Dieu pour recevoir la parole de Dieu, les plans du tabernacle. Ça fait 40 jours que le peuple n'a pas vu Moïse. C'est long dans un sens et court en même temps. 1 mois et 10 jours. 40 jours pendant lesquels Dieu donne les lois ainsi que les instructions pour la construction du tabernacle. C'est pas qu'il se passe rien pendant ces 40 jours. Le projet de Dieu est en train d'avancer. Le projet de Dieu est en train d'avancer, mais le peuple ne voit pas ça de ses yeux physiques. Et le voilà qui se lasse d'attendre. Un peu d'attente pour un projet qui dépasse les rêves les plus fous de ton cœur. Un peu d'attente pour un projet qui dépasse les rêves les plus fous de notre âme, de toute une vie terrestre. Et le peuple estime que ça ne vaut pas la peine d'attendre. La première chose qu'on voit, c'est l'impatience. No patience, impatience. Vous avez déjà vécu ce sentiment, ce point de dilemme où vous êtes là en train d'attendre quelque chose et ça commence à devenir long. Encore un peu, ça devient plus difficile. Et vous êtes sur le point de prendre les choses en main vous-même. Marre d'attendre. Peut-être vous avez déjà vu ça chez une personne que vous aimez. Peut-être un ami ou un conjoint ou vos enfants. Vous êtes débrouillé pour une superbe surprise. Il y a un petit peu de secret. Mais tout est en place et il faut juste attendre encore un petit peu. Et avant que vous puissiez offrir cette surprise, cette bonne chose, il y a du mécontentement et ça râle dans la voiture pour aller à Disneyland Paris. Parce que c'est trop long. C'est un exemple fictif, hein. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça vis-à-vis de Dieu? Est-ce que c'est votre cas peut-être même, juste ce matin? Le peuple n'a pas la patience d'attendre Moïse, le médiateur choisi par Dieu, ni d'entendre les paroles de Dieu. Donc il en a marre de chercher à obéir après 40 jours. Et il décide de prendre les choses en ses propres mains. Et donc après l'impatience, vient le mépris de Dieu et de celui qui l'a envoyé. After being impatient, then the people despise God and the one he has chosen, the one he has sent as his mediator. Voilà que le peuple, de nouveau, se met à le mépriser, ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte. Est-ce que vous réalisez combien c'est subtilement ironique ici? Ils sont en train de dire, c'est qu'un homme, qu'est-ce qu'il a de plus que nous? On n'a pas besoin de lui. Et en même temps, le peuple, il ne veut pas voir alors. Il ne veut plus se souvenir que Moïse a été l'instrument dans les mains de Dieu pour une délivrance que eux-mêmes tous ensemble, même s'ils s'étaient réunis, ils n'auraient pas pu produire. Ils ne le voulaient même pas au début, sortir d'Égypte, quand le pharaon a commencé à taper du poing sur la table, la première fois que Moïse a été réclamé la libération du peuple au nom de Dieu. C'est un peu comme dans Genèse 3. Le peuple d'Israël estime qu'il peut se passer de Dieu. Il rejette son action passée, ses bénédictions passées. Il rejette Moïse, l'intermédiaire, le médiateur choisi par Dieu. Moïse qui a affronté pour eux le pharaon, qui a tenu ferme dans le Seigneur pour le peuple, qui a été utilisé par Dieu pour instruire le peuple du moyen du salut. Vous vous rappelez la nuit de Pâques? S'ils n'avaient pas mis le sang sur le linteau des poteaux, ils étaient cuits. Ce Moïse qui a été aussi l'instrument de Dieu pour ouvrir un chemin dans la mer, là où il n'y en avait pas, alors qu'ils étaient poursuivis par toute l'armée du pharaon. Ce Moïse qui a intercédé devant Dieu pour du pain et de l'eau pour le peuple. Ce Moïse qui est convoqué en haut de la montagne fumante au Sinaï, alors que tous sont en train de trembler au bas de la montagne. Et voilà qu'en quelques versets, le peuple, avec Aaron, met en place un culte qui est l'exact opposé de ce que Dieu a demandé, dans les 10 commandements en particulier. Oui, combien tous ces commandements-là, au moins les trois premiers, sont déchirés directement. Alors que d'un côté, Dieu est en train de révéler son caractère, sa personne, qui il est, et de donner les instructions sur la manière dont il veut être adoré, avec au centre de ce système le tabernacle et l'arche de l'Alliance. Alors qu'il est en train de révéler son caractère et comment il veut être adoré, les deux choses étant en relation très étroite. Et pardon de prolonger encore cette parenthèse, c'est parce que Dieu est qui il est, l'unique, le saint, qu'il demande à son peuple d'être saint. Parce que ça reflète son caractère, parce que c'est comme ça qu'on va adorer correctement le Seigneur. Alors donc, que d'un côté nous voyons le détail de tout cela, de l'autre côté, les hommes font leur propre plan sur la manière de servir Dieu. Et ils lui inventent une personnalité. Et vous reconnaîtrez peut-être, ils sont donc inexcusables, puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Ils ont préféré tenir la vérité captive dans l'injustice. Ils ont changé la gloire du Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable. Ils ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge et ont adoré la création au lieu du Créateur. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est ce que Paul dit à propos de toute l'humanité dans Romains au chapitre 1. Alors, avec l'impatience et le mépris de Dieu viennent ce que j'ai appelé les singeries. Les singeries de culte. Une imitation abjecte du culte véritable qui est dû à Dieu. Une singerie qui est toujours syncrétiste. So after impatience and despising God, then next step is trying to imitate, but in very, 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 very bad way, the proper worship that is due to God. And it's always linked, mixed with syncretism. A little bit of truth, a lot of wrongdoings and lies. Vous remarquerez donc ce mélange, cette faux culte, et vous remarquerez que Aaron construit un autel comme le Seigneur a demandé. Il y a un mélange entre des choses vraies que Dieu a demandé et puis des inventions totales. Ils offrent même des sacrifices, des holocaustes et des sacrifices de paix en disant que c'est pour Yahweh, le nom personnel de Dieu par lequel il s'est engagé. Ce nom qui fait appel à son caractère le plus profond, qui va de pair avec son caractère même, sa personnalité même. Et ils osent utiliser ce nom pour un faux Dieu qu'ils ont inventé, qu'ils ont construit de leurs propres mains. La vérité et le mensonge ensemble, c'est la base doctrinale du nouveau culte inventé. Un peu de tout. Du moment que ça plaît à tout le monde, c'est ça qui compte. Et voyez quelle éthique ça produit. And see what ethos, what way of life then it leads to. Quel est le style de vie que ça produit? En fait, vous ne voulez pas savoir. Parce que c'est terrible. D'abord, on voit l'immoralité sexuelle. Le verbe s'amuser ici, c'est un terme hébreu qui porte clairement une connotation sexuelle. Donc, quand ils se sont levés pour s'amuser, c'était voilà, clairement à côté de la plaque. C'est une sexualité déviante. Le Seigneur avait convoqué son peuple pour une fête au Sinaï. Vous vous rappelez? Quand ils étaient encore en Égypte, il dit « Vous ferez 3 jours de marche pour aller me célébrer ». Mais eux, la fête qu'ils organisent, c'est une singerie de nouveau. C'est une fausse joie. C'est l'excitation d'un instant. Mais ce n'est pas quelque chose qui rassasie à long terme. La deuxième chose, le peuple avait fait une offrande pour le tabernacle. Mais l'instant d'après, il utilise son argent, ses biens, pour servir un autre maître. Et maintenant, c'est pour se fabriquer un veau en or. La troisième chose, on voit le simulacre de pratiques religieuses, de façades religieuses, au lieu de l'arche de l'Alliance, au centre de toute l'Alliance, justement, mise en place par Dieu. L'arche qui contient les paroles de Dieu, donc comment on doit obéir, et qui, dessus recouverte par le coffre, où c'était le lieu de l'expiation des péchés, parce qu'on va pas réussir, alors on a besoin de quelqu'un qui vient effacer nos péchés chaque fois qu'on rate à marcher sur la parole de Dieu. Au lieu de cette arche de l'Alliance et de son propitiatoire, se trouve un veau façonné par des mains humaines, qui était dans le Proche-Orient ancien un symbole de puissance, le veau. Donc c'est le trio infernal, sexualité déviante, argent, pouvoir défaillant qui est à l'œuvre ici. En haut de la montagne, Dieu est présent dans toute sa gloire. Et en bas, c'est le péché qui déploie sa force insidieuse. Combien nous sommes rapides à nous détourner de Dieu. Attention, il y a un danger ici. Et Dieu voit, et Dieu sait. Et nous lisons, Dieu se met en colère, à juste titre. Mais il montre aussi par quels moyens on peut revenir à lui. La deuxième partie, Dieu se met en colère, bien sûr. Mais j'espère que vous allez être surpris, étonnés. Il montre aussi par quels moyens on peut revenir à lui. God is angry, of course he is. It's a just anger. But he is also showing how we can come back to him. There's a way to go back to him. Let's read from verse 7 to 14. Lisons à partir du verset 7 jusqu'à 14. Dieu se met en colère, mais il montre aussi par quel moyen on peut revenir à lui. Le Seigneur dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, celui que tu as fait monter d'Égypte, s'est perverti. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un torillon de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple rétif. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère contre eux. Je les exterminerai et je ferai de toi une grande nation. » Moïse chercha à apaiser le Seigneur son Dieu. Il dit, « Seigneur, pourquoi te mettre en colère contre ton peuple alors que tu l'as fait sortir d'Égypte par une grande puissance, par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer, pour les faire disparaître de la terre? Reviens de ta colère ardente, renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en faisant un serment par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, et je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ce sera son patrimoine pour toujours. » Alors, le Seigneur renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. On voit la colère de Dieu et l'intercession de Moïse. Le péché pousse Dieu à se dissocier de nous. C'est la réponse normale, n'est-ce pas? Quand nous choisissons, nous, quand nous prenons l'initiative de nous détourner de Dieu, en fait, Dieu nous laisse à nous-mêmes. Et c'est terrible. C'est terrible, à moins que. Et on voit Dieu qui dit, je vais me mettre en colère, je vais les exterminer. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et j'espère vous aider à voir ça dans les 2 minutes qui viennent. Écoutez bien. Dieu dit 2 choses importantes, en particulier au verset 10, qui nous indiquent que ce n'est pas la fin de l'histoire, qu'il y a une autre possibilité. Just look with me, verse 10, for 2 minutes, and we'll see that it's not the end of the story. God is angry, yes, but there's a possibility of coming back to him. The first thing, la première chose, il dit à Moïse... C'est à moitié une bonne nouvelle. Il dit à Moïse, je ferai de toi une grande nation. Donc, ce n'est pas comme si cette faute grave du peuple, juste après avoir ratifié le contrat d'alliance, vient mettre à mal tout le projet de Dieu. Comme si Dieu abandonne la partie. Il se lave les mains et dit, c'est bon. Tous les humains, ce sera pareil. J'arrête tout. Il est prêt encore à continuer avec quelqu'un. Il est prêt encore à continuer avec Moïse. Ce n'est pas très bonne nouvelle pour le peuple qui est dépositaire des promesses jusqu'à présent. Et ça nous dit quelque chose de Dieu qui veut malgré tout faire quelque chose avec l'humanité. Dieu n'abandonnera jamais. Dieu est un Dieu d'espérance certaine. Regardez encore au verset 10, la deuxième chose. Dieu dit au début du verset, « Laisse-moi faire, je vais faire ça. » Quand tu dis ça à quelqu'un, quand tu affirmes quelque chose, mais que tu laisses aussi subtilement la place pour une parole ou pour une action, n'est-ce pas un moyen d'ouvrir la porte pour une intervention de Moïse ? Est-ce que vous voyez ça ? Laissez-moi vous redire. Si Dieu dit « Laisse-moi faire », je vais agir de cette manière. N'est-ce pas ? En fait, c'est différent que si, sans rien dire, il agit et il extermine le peuple. Et donc, juste cette phrase-là nous montre que Dieu est en train de laisser la place pour une intervention du médiateur qu'il s'est choisi lui-même pour Moïse. Il y a une porte ouverte pour que quelqu'un vienne intervenir avant que Dieu n'agisse lui-même pour exterminer. Est-ce que ça réchauffe votre cœur ? Est-ce que vous voyez un peu mieux qui est Dieu ? Et n'est-ce pas magnifique de voir alors Moïse saisir cela ? Quel amour aussi de Moïse pour son propre peuple ! Moïse utilise cette offre qui lui est tendue là par Dieu. Il a été suscité pour ça, il a été préparé pour ça. Et voici les trois éléments de l'intercession de Moïse. Il parle à Dieu et il dit « Dieu, tu as déjà accompli des choses dans le passé. Tu as déjà commencé à sauver ce peuple. Rappelle-toi la délivrance, ta main puissante pour le sortir de l'Égypte. » Il fait appel aux actions passées de Dieu en bénédiction pour son peuple. La deuxième chose, il fait appel à l'honneur de Dieu. Moïse n'est pas motivé par son confort. Il n'est pas motivé par le confort du peuple. Il dit, en fait, c'est pas très gentil si tu les extermines, ce serait quand même bien que... Il dit, mais pour ton honneur, qu'est-ce que les gens autour vont dire de toi ? Ça brûle à l'intérieur de Moïse pour l'honneur de Dieu, plus que pour lui. Ah non, mais si tu fais ça, moi j'ai raté ma mission alors. C'est l'honneur de Dieu qui compte encore plus pour Moïse, qui le pousse à intercéder. Et la troisième chose, souviens-toi. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi des promesses que tu as déjà faites. Personne ne t'avait forcé à faire ces promesses. Tu t'es allié avec Abraham. Tu as dit que tu allais le multiplier, tu allais bénir sa descendance, tu allais le conduire dans un lieu où il pourrait vivre en paix avec toi, dans une relation spéciale. Souviens-toi. C'est par toi-même que tu as fait ce serment-là. Et Moïse fait appel à l'alliance inconditionnelle faite à Abraham. Vous pouvez relire ça si vous voulez, chapitre 12 ou chapitre 15. Ce n'est pas Abraham qui a forcé Dieu par sa vertu ou par sa force. C'est Dieu en lui-même qui a choisi de bénir Abraham et sa descendance. Il a choisi de donner quatre choses, vous vous rappelez, une descendance nombreuse qui inclura les autres nations dans cette bénédiction, un lieu parfait pour demeurer, et une relation spéciale avec Dieu. Et justement, cette relation spéciale vient d'être gravement blessée. C'est plus qu'égratignée, déchirée à l'initiative du peuple. Voici que sur la médiation de Moïse, sur la base de ses propres engagements que Moïse vient lui rappeler, Dieu choisit de ne pas exterminer le peuple, choisit de renoncer au mal. La question, alors, peut-être qui vient maintenant, il y en a encore deux. La première, c'est le péché est-il sans conséquence alors ? Oh, bah, s'il suffit d'une intercession, on peut continuer à vivre sans trop se soucier de ce que Dieu pense. Le péché, vous savez comme moi, parce que je l'utilise aussi, ils aiment trouver des bonnes excuses. Ils aiment s'auto-justifier. Comme Adam et Ève se sont parés d'habits en feuilles dans le jardin d'Éden, le péché essaye de nous faire croire que si on se couvre suffisamment, on pourrait calmer notre conscience de pécheur face à la culpabilité et notre honte devant Dieu. N'est-ce pas incroyable, alors juste à ce moment-là, de réaliser l'enchaînement des événements ? Le peuple a péché, Moïse n'est pas encore redescendu pour confronter le peuple par rapport à son péché que Dieu a déjà choisi de renoncer à exterminer le peuple. Dans un sens, il a déjà renoncé, et plutôt il a choisi de pardonner à ce peuple, sur la base de la médiation de Moïse. Alors on lit au verset 15, jusqu'à 29. Just a quick word before we read verse 15. We have to ask this question: is sin without consequences then? If we see God ready to forgive the people on the basis of his alliance and the intercession of Moses, should we say that there's no consequences in sin? Can we live without without worrying about what God is thinking? Not exactly that. Let's read. But for our encouragement, we see that God has already forgiven the people before Moses confronts the people with their sin. So let's read from verse 15. Lisons à partir de verset 15. Moïse redescendit de la montagne, les deux tablettes du témoignage à la main. Les tablettes étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de part et d'autre. Les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tablettes. Quand Josué entendit le peuple qui poussait des clameurs, il dit à Moïse, « Il y a un bruit de guerre dans le camp !» Moïse répondit, « Ce n'est pas un cœur de victoire, ce n'est pas un cœur de défaite, ce sont d'autres cœurs que j'entends. » Comme il approchait du camp, il vit le taurillon et les danses. Alors Moïse se mit en colère. Il jeta les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le taurillon qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en une poussière qu'il dissémina sur l'eau, et il le fit boire aux Israélites. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu aies fait venir sur lui un si grand péché ?» Aaron répondit, « Ne te mets pas en colère, mon Seigneur. Tu connais toi-même ce peuple, il est porté au mal. » Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Je leur ai dit que ceux qui ont des objets d'or les enlèvent, ils me les ont donnés, je les ai jetés au feu, il en est sorti ce taurillon. Moïse vit que le peuple était incontrôlable, car Aaron l'avait laissé devenir incontrôlable. Il allait être la risée de ses adversaires. Moïse se tint debout à la porte du camp et dit « Ceux qui sont pour le Seigneur, à moi !» Tous les fils de Lévi se rassemblèrent autour de lui. Il leur dit « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Passez et repassez dans le camp, d'une porte à l'autre, et tuez qui son frère, qui son ami, qui son parent. » Les fils de Lévi firent ce que Moïse avait dit ce jour-là. Il tomba environ 3000 hommes parmi le peuple. Moïse dit, « Soyez investis aujourd'hui pour le Seigneur, chacun, même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Sin always has consequences. Le péché a toujours des conséquences. C'est pour ça que le monde est tel qu'il est aujourd'hui, suite à la désobéissance d'Adam et Ève, nos représentants dans le jardin d'Éden. Il y a un sens où toute la création, nous dit Romains 8, est soumise à la futilité, à dépérir. Elle est marquée par le péché. Toutefois, aussi, nous dit Romains 8, avec une espérance. Alors, ça veut dire que tout ce qui nous arrive, qui s'oppose un peu à nos plans, à nos projets, qui est difficile, n'est pas nécessairement la conséquence directe de notre péché. Il faudrait que ça soit bien clair entre nous que ce n'est pas systématique, automatique. Ah, j'ai péché aujourd'hui, demain, je vais m'attendre à ce qu'il y ait une tuile qui me tombe sur la tête. C'est un peu plus complexe que ça. Mais il ne faut pas non plus inverser dans l'autre sens et se déresponsabiliser totalement. Ça se peut, parfois, que ce soit le cas, que notre péché a des conséquences. Si vous buvez trop et trop longtemps, vous aurez des problèmes de foi, vous aurez des problèmes de santé. Si vous êtes drogué et que vous continuez à le faire et que vous n'arrêtez pas, vous aurez des conséquences aussi de cela. Et ça, c'est des façons faciles de voir ça dans la vie, parce que c'est physique. Mais la même chose dans le domaine spirituel. Et donc, j'aimerais qu'on s'encourage les uns les autres à ne pas être légers en ce qui concerne le péché. Et en particulier, n'inventons pas de fausses excuses. Comme Aaron, C'est ton peuple, là. Tu le connais bien, il est incontrôlable. Alors qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Un peu, il est en train de reprocher à Moïse, tu m'as laissé tout seul. Et Moïse lui avait donné des instructions, il avait été revêtu d'un ministère. C'était à lui de faire. Il avait toute la capacité de faire ça. Il avait été suscité même par Dieu pour être l'assistant de Moïse. N'inventons pas de fausses excuses. Tu comprends, moi j'ai un boulot toute la semaine. J'ai bien le droit de me reposer un peu. Ou alors, il est en train aussi d'accuser Dieu en disant, c'est ce peuple-là que Dieu a suscité. Et comme il tarde, il fallait bien faire quelque chose. Et peut-être la fausse excuse qu'on a, qui résonne dans nos têtes, parfois, c'est qu'on est en train de se dire, que Dieu me montre d'abord qu'il m'aime. Parce que pour le moment, j'ai plutôt l'impression qu'il tarde à répondre à mes prières, qu'il tarde à intervenir dans le sens où je voudrais. Il me semble bien que je m'en sortirai mieux sans lui. Peut-être qu'il a besoin d'un petit coup de pouce. Le même mensonge qu'en Éden. Tu es sûr que Dieu a vraiment dit ? Où est-ce qu'il est maintenant face à la tentation ? Tu es sûr que Dieu voulait ton bien quand il a dit ça ? Est-ce que Dieu t'aime vraiment ? En fait, finalement, Dieu le sait bien. Au fond, tu as tout ce qu'il faut en toi. Assez d'énergie, de sagesse pour te débrouiller tout seul dans ce monde sans lui. Et en faisant ça, on oublie que Dieu est déjà intervenu puissamment dans le passé. Et c'était le cas pour le peuple d'Israël par rapport à ce qu'ils avaient vécu dans leur sortie d'Égypte. Et pour nous, c'est aussi valable. Dieu est intervenu de façon incroyable en Jésus-Christ par son œuvre à la croix pour nous sauver de nos péchés. Même plus que ça, même plus proche que vous encore de ça, soyons juste un peu honnêtes et concrets et voyons comment Dieu est intervenu pour nous juste dans ces 12 derniers mois. Alors on voit... On invente des fausses excuses et Aaron a laissé le peuple devenir incontrôlable, ce qui nous fait penser aussi au Proverbe 29, verset 18. Faute de vision claire, de révélation de la part de la parole de Dieu, le peuple périt. C'est en train d'arriver devant nos yeux dans Exode 32. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour voir clair sur notre vie. Au lieu de la fuir, venons à elle. Elle est précieuse parce qu'elle nous éclaire sur qui nous sommes et sur notre besoin. Et elle nous montre aussi comment revenir à Dieu. Elle nous empêche de nous enfermer dans nos auto-justifications. Le péché a des conséquences, ne soyons pas légers sur ce point-là. Il y a l'amertume du péché. Et je sais, comme moi, vous l'avez déjà goûté. Comme moi, vous avez réalisé. En fait, le péché, c'est dégoûtant. Sauf que c'était après. Et vous étiez triste. Et vous étiez en train de vous dire, mais qu'est-ce que j'étais bête. Alors on doit se demander pourquoi est-ce qu'on revient si souvent alors à quelque chose de dégoûtant. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, salutaire en fait, que par exemple certains fruits ou certains aliments dangereux pour la santé sont tellement mauvais qu'on ne veut pas les approcher. Quelqu'un veut-il manger du caca ? Excusez-moi d'être un peu trivial. Personne. C'est pas bon. Et on le sait. Heureusement, ça nous détourne d'eux. Est-ce qu'on a senti déjà l'amertume du péché ? Puisqu'on l'a senti, pourquoi revenons-nous à ça ? Il y a l'amertume du péché. On voit Moïse qui détruit cette idole qu'il a fait boire après, en réduit en poussière. Ça ne devait pas être très bon. Il voulait que le peuple ressente l'amertume de la séparation d'avec Dieu. Mais pire que ça, il y a la mort. Vous savez, cette parole de l'évangile de Dieu lui-même, le salaire du péché, ultimement, c'est la mort. C'est déjà la parole de Dieu en Éden. Si vous mangez ce fruit que je vous défends de manger, vous mourrez. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et remarquez ici, ce n'est pas Moïse qui décide la mort de 3000 hommes, c'est Dieu. Moïse ne fait que redire les paroles de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Voilà ce que Dieu commande. Oui. Il y a aussi le salaire du péché qui est la mort. Et d'ailleurs, notre propre mort, dans ce sens-là, physique, elle est un rappel qu'en Éden, nous étions tous concernés et nous avons tous suivi Adam dans sa rébellion. Pire que la mort, c'est possible ? Oui. La séparation d'avec Dieu. Et en fait, Dieu dit, c'est ton peuple, il se dissocie. Ce qui est plus terrible encore, ce serait que même au-delà de la mort physique, on ne soit pas en présence de Dieu, on ne soit pas réconcilié avec Dieu. Alors il y a un choix radical à faire. Qui est pour le Seigneur ? Qui désire être mis à part ? Qui, ce matin, veut sortir du péché ? Qui veut rompre avec sa culture, peut-être même avec sa famille, pour s'engager positivement pour le Seigneur. Ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile, mais Dieu est capable de nous rendre puissants pour ça. Et puis nous lisons. Après cela, donc, la suite à partir du verset 30. Just read from verse 30 now. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Maintenant, je vais monter vers le Seigneur. Peut-être pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. » Moïse revint vers le Seigneur et dit, « S'il te plaît, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Si maintenant tu voulais bien pardonner leur péché, sinon je t'en prie, efface-moi de ton livre, celui que tu as écrit. » Le Seigneur dit à Moïse, « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Maintenant, va, conduis le peuple où je t'ai dit. Mon messager marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je leur ferai rendre des comptes pour leur péché. » Le Seigneur frappa le peuple d'un fléau parce qu'ils avaient fait ce taurillon, celui qu'Aaron avait fait. Le Seigneur dit à Moïse, « Va, toi et le peuple que tu as fait monter d'Égypte, monte d'ici vers le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, « Je le donnerai à ta descendance. J'enverrai devant toi un messager, et je chasserai les Cananéens, les Amorites, les Hittites, les Périsites, les Hivites et les Jébusites dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple rétif. » Lorsque le peuple eut entendu cette parole funeste, il prit le deuil. Personne ne mit ses ornements. Le Seigneur dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple rétif. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerai. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements et je verrai ce que je vais te faire. » Ainsi les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements à partir du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp à quelque distance. Il l'appela « tente de la rencontre ». Quiconque voulait consulter le Seigneur sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Ce passage qui termine notre section ce matin nous laisse un peu en suspense. Il y a un grand péché qui a été commis. On voit Moïse qui revient. Dieu a déjà choisi de pardonner et il veut retourner vers le Seigneur pour être sûr que l'expiation totale est faite, qu'il y a bien réconciliation entre le peuple et Dieu, même après les conséquences terribles du péché. Moïse revient et dit, « S'il te plaît, il n'est pas en train de nier que le peuple a péché. » Il dit, « Ce peuple a commis un grand péché. » La confession honnête devant Dieu, elle est toujours préférable à essayer de masquer et de trouver de fausses excuses. Et il dit à Dieu, « Si maintenant tu voulais bien pardonner, non pas leur péché au pluriel, toutes leurs mauvaises actions, mais si tu voulais bien pardonner leur attitude pécheresse, leur péché qui est là au fond, si tu pouvais enlever ça une fois pour toutes. » Et il sait que c'est la condition, la seule condition pour que Dieu puisse rester à long terme, pour l'éternité, avec ce peuple. Et voyez ce que Moïse est prêt à faire, il dit, « Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre. » Je ne sais pas si on réalise ce que Moïse est en train de dire. Il dit, « Je préfère être condamné éternellement, porter la faute de tout ce peuple-là, moi, pour que eux puissent avoir la vie sauve, pour que eux puissent vivre éternellement, jouir de toutes les bénédictions magnifiques que moi-même j'espère tant, mais si eux ne l'ont pas, ils sont plus nombreux. J'ai envie que eux tous l'aient. Seigneur, s'il te plaît, s'il n'y a pas d'autre moyen, même, ben alors, mets tout leur malfaisance à mon compte. Mais n'enlève pas leur nom du livre de vie. Parce que c'est ce livre-là qu'il est question. Le livre qui sera ouvert au jour du jugement. Tous ceux qui sont inscrits dans ce livre ont la vie éternelle, sont réconciliés avec Dieu, auront toutes les bénédictions promises par Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. » Maintenant, va, conduis le peuple où je t'ai dit. Et nous voyons que Dieu continue son projet. Il ne dit pas, attends, laisse-moi réfléchir. Reviens dans 3 jours, reviens dans 10 jours. Il dit, maintenant, va et conduis ce peuple. Le projet de Dieu continue d'être en marche. Il est en train de lui dire qu'il va l'amener dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour savoir, mais comment est-ce que ça va être possible? Le péché qui vient de se passer a été résolu, mais comment pour envisager l'avenir? Comment est-ce qu'on va envisager l'avenir quand la question du péché au fond du cœur, de l'attitude pécheresse, de l'attitude de rébellion contre Dieu, la volonté de vivre dans l'autonomie par rapport à Dieu reste toujours présente? Comment est-ce qu'on va faire pour qu'un Dieu saint habite au milieu d'un peuple qui ne l'est pas? Alors, je suis désolé pour, si vous nous visitez, mais je vous invite à lire alors chapitres 33 et 34 pour savoir comment Dieu se manifeste, comment Dieu se révèle à Moïse. Et comment est-ce qu'il va résoudre cette situation-là? Et comment, dans la fin d'Exode, nous allons voir que le projet continue, le tabernacle va être construit, et Dieu va venir habiter, en effet, au milieu du peuple. Pour le moment, Moïse doit mettre la tente à l'écart, en dehors du camp. Et tous ceux qui alors sont pour le Seigneur doivent faire un acte public et qui les engage très fortement de sortir du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Alors, laissez-moi conclure. This is my conclusion, sorry. I forgot to speak in English for a few words, but maybe you can talk after. Première conclusion. Ce matin, toi, vous, est-ce que vous avez fait ce que le peuple a fait? Est-ce que tu as perdu patience? Un moment ou un autre dans ta vie, et tu en es encore là aujourd'hui. Je ne connais pas les uns les autres. Peut-être tu attendais quelque chose de sa part, et ce n'est pas venu au moment où tu voulais, et tu as pris les choses en main. Peut-être tu as dit, cet homme-là, ce Jésus, avec toutes ses belles paroles et ses belles promesses, qui m'a amené jusqu'ici, où est-il maintenant? Et tu as commencé à vivre pour le veau d'or, un faux Dieu, suffisamment ressemblant avec ce que tu avais connu de Dieu, mais en même temps pas un vrai Dieu, un Dieu mélangé de toutes sortes de choses, un Dieu que tu pensais pouvoir t'offrir et que tu pensais pourrait t'offrir ce que tu désirais. Tu as cru le mensonge, tu t'es amusé un temps et tu as expérimenté que, en fait, c'est pas par ce moyen-là que le vrai Dieu, le Dieu vivant, le créateur de ta vie, peut demeurer avec toi. Et ça a été une parole funeste aussi pour toi quand tu as réalisé ça. Peut-être que tu es juste en train de t'en rendre compte ce matin et tu veux revenir à Dieu. Mais la bonne nouvelle dans tout ce cauchemar de Exode 32, c'est que Dieu dit à Moïse, laisse-moi faire. Il laisse l'intervention de quelqu'un, il laisse l'intervention de Jésus-Christ pour intercéder, pour demander le pardon, pour faire l'expiation des péchés. Il y a possibilité de venir à Christ en dehors du camp. Ça va demander que tu t'engages publiquement à renoncer, à vivre d'une manière qui n'est pas sainte, qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Et que tu sortes du camp pour aller à Christ, pour confesser honnêtement ton péché, cette attitude-là de ton cœur. Moïse n'est plus ici, mais nous avons plus que Moïse. Nous avons un médiateur qui est plus grand que Moïse. Nous avons celui que Moïse annonçait comme une ombre. Nous avons celui qui est parfaitement capable d'expier, d'effacer le péché, d'apaiser la colère de Dieu et qui va faire en sorte que les bénédictions de Dieu vont être vraies pour nous, que Dieu va nous conduire dans le lieu qu'il a choisi pour être pour toujours avec nous. Alors, venez, viens à Jésus, fais appel à lui, demande-lui d'intervenir auprès de Dieu, tout comme Moïse l'avait fait. Dieu n'a pas changé, il veut se laisser fléchir par son propre Fils, parce qu'il a satisfait entièrement à la justice requise par Dieu. Il ne sera pas comme si Dieu fait semblant de ne pas voir. Il va réellement voir le péché. Mais la justice a été, la dette a été pleinement payée par Jésus-Christ. La justice de Dieu est satisfaite. Son amour est parfaitement révélé à la croix. N'aie pas peur. Viens voir Jésus-Christ. Peut-être tu es chrétien, chrétienne. Il y en a ici ce matin, n'est-ce pas ? Mais tu es tenté ces derniers temps, peut-être, de douter. Où est Dieu ? Où est Jésus-Christ aujourd'hui ? 2000 ans après, et où on en est dans toutes ses promesses ? Voici la parole de l'apôtre Pierre, en chapitre 3, versets 1 à 7 de sa deuxième lettre. « Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour réveiller en vous une saine intelligence. » Afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Écoutez le commentaire de Pierre, de l'apôtre Pierre. « De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. » Mais il continue au verset 11, « Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. » N'est-ce pas une bonne chose de savoir que Dieu patiente, mais pour, c'est pas que son projet n'avance pas, au contraire, il est en train d'avancer, il est en train de sauver d'autres. Nous en voyons certains, d'autres nous ne les voyons pas, partout sur la surface de la planète. Dieu est toujours actif. Et sa patience n'est pas un désintérêt pour nous, pour notre situation. Et si tu es en lutte aujourd'hui avec des circonstances difficiles, tu te dis, mais je ne vois pas comment Dieu intervient. Ne doute pas. Reste ferme dans ce que Christ a fait pour toi. Reste ferme à chercher à obéir à la parole, en comptant sur sa grâce, en comptant sur ses forces. Dieu est capable de te garder pour ce nouveau ciel, cette nouvelle terre où la justice habitera. Tu trouves que c'est difficile dans un monde où la justice n'habite pas, mais ça vient. Et ce matin, c'est courage alors. Parce que Jésus qui intercède pour nous aujourd'hui même à la droite de Dieu est aussi celui qui a envoyé son esprit pour nous permettre de tenir bon dans ces difficultés. Et enfin, une troisième application pour ce matin. Comment parles-tu à Dieu de tes amis non-croyants qui font face à la colère de Dieu? Je parle de ton collègue qui partage le même bureau que toi 5 jours sur 7, de nombreuses heures sur une année, de nombreuses heures dans ta vie. Ton camarade de classe avec qui tu passes des journées aussi entières. Ton voisin, un ressortissant de la même nation que toi, que nous, que moi, citoyen de la même ville, de la même région, avec tous ces beaux attraits touristiques et naturels, mais aussi toutes ces injustices. Comment parles-tu à Dieu des parents d'élèves de l'école de tes enfants? Quel genre d'intercesseur es-tu? Est-ce que tu es comme Moïse? Comme Paul qui disait « Je préfère être anathème pour qu'eux soient sauvés. » Serais-tu prêt à être retiré du livre de vie pour qu'eux puissent entrer? As-tu conscience des bénédictions incroyables qui sont promises et seront données à coup sûr à ceux qui croient? La plus grande d'entre toutes, ce sera que Dieu lui-même sera présent avec nous, qu'on l'appréciera, sa présence et sa gloire. Et ça, c'est possible que s'il y a pardon des péchés. Comment parles-tu à Dieu de tes amis, de ceux que tu aimes, de ceux que tu apprécies? Voici quelques passages qui peuvent nous aider, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, à intercéder sur la base des promesses de Dieu dans cette nouvelle alliance. Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. On pourrait prier, « Retire leur cœur de pierre et donne-leur un cœur de chair. » Ou Deutéronome 30, verset 6. « S'il te plaît, Seigneur, circoncis leur cœur pour qu'ils t'aiment de tout leur cœur et de toute leur âme afin de vivre. » Ou Ézéchiel 36, verset 7. « Père, s'il te plaît, mets ton esprit en eux afin qu'ils suivent tes prescriptions. » Ou 2 Timothée, chapitre 2, verset 25 et 26. « Dieu, s'il te plaît, donne-leur de changer d'attitude et de connaître la vérité afin qu'ils échappent au piège du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Alors, acte 16, verset 14, on désire la même chose que pour Dorcas, n'est-ce pas? Donc, acte 16, verset 14, « Ouvre leur cœur pour qu'ils croient à l'Évangile. » Que le Seigneur nous bénisse, je voudrais prier pour terminer. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci parce que avant même que le peuple confesse sa faute, sur la base du médiateur que tu avais choisi, tu avais décidé de pardonner, de passer outre. Ce n'était pas tout à fait sans conséquence, mais ultimement, tu as choisi de tenir ferme dans ton alliance, de ne pas revenir sur ta parole. Seigneur, merci, parce que tout ce que nous avons vu ici, pour le peuple d'Israël, il y a bien longtemps, c'est encore vrai pour nous, et encore de façon plus grande et plus magnifique, grâce à Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, que personne ce matin ici doute qu'en revenant à toi, il pourra obtenir véritablement le pardon de ses péchés. Seigneur, je te prie que ce matin, personne doute en repartant que s'il a lutté, s'il est en passe de faire des mauvais choix, de vouloir reprendre des choses, que personne doute que ta parole est meilleure, que ta présence est toute suffisante, et que tu aides mon frère ou ma sœur qui lutte à revenir aussi à toi. Et Seigneur, transforme nos cœurs pour que nous ressemblions à Paul, à Moïse, et que, en faisant appel à Jésus, à son œuvre sur la croix, nous intercédions pour ceux qui comptent pour nous dans notre vie, nos voisins, nos collègues, nos amis, les parents d'élèves, ceux qu'on rencontre, pour qu'ils puissent découvrir la bonne nouvelle et être sauvés eux aussi. Seigneur, on ne te prie pas juste pour nous, on te prie que tu sauves encore un peuple nombreux ici à Cavaillon et dans la région. Au nom de Jésus. Amen.